Jeudi 3 octobre 2019 se tenait la journée d'études Les femmes dans le jazz d'hier à aujourd'hui, état des lieux, perspectives de recherche. Cette journée d'études était organisée par le laboratoire ICD de l'Université de Tours, un événement organisé par Vincent Cottreau, département de musique et musicologie, modéré par Hélène Morel-Indard.
La place des femmes, ou plutôt les femmes dans le jazz d'hier à aujourd'hui. C'est peu dire que le sujet de cette journée rentre en résonance avec notre temps. En témoigne la présence ici d'étudiants, bien sûr, venus nourrir leur curiosité, mais également de professionnels de la musique, venus parfois de loin, pour y assister, ce dont je les remercie, sans les citer. En témoigne de cette actualité du sujet, en témoigne certaines collisions de dates, par exemple la restitution la semaine dernière au ministère de la Culture d'une étude nationale portant sur la représentation femmes-hommes dans le jazz et les musiques improvisées, portant sur les données de 2018, sur lesquelles je reviendrai rapidement tout à l'heure. Plus près de nous encore, jeudi dernier, était présentée au Petit Faucheux la saison qui s'ouvre. Le Petit Faucheux, soit dit sans chauvinisme, l'un des lieux phares de la diffusion du jazz et des musiques improvisées à l'échelle nationale et européenne, l'une des rares salles de jazz ou de musique dites actuelles à être dirigée par une femme, Françoise Dupin. La prochaine artiste associée en résidence au Petit Faucheux en 2021 sera la flûtiste Sylvaine Hélary. Voilà donc une collision, encore une fois, d'actualité. Résonance de cette journée avec notre temps si on observe également la recrudescence d'initiatives à forte visibilité, telles que la programmation des festivals de jazz. Festival de jazz comme Parfum de jazz dans la Drôme provençale, qui ne programme depuis l'année dernière que des groupes dirigés par des femmes. Citons encore les festivals Women in Jazz qui se multiplient, comme celui de Halle en Allemagne, qui proposera sa 15e édition en 2020, celui de Washington, de Göteborg, de Sydney, Melbourne, Knoxville, Seattle, etc. Dans la dernière livraison de Jazz Magazine, la programmation du prochain festival Jazz sur scène est intitulée « Vers la parité ?» Je cite « Un signe des temps, la présence féminine ne cesse de s'accentuer avec cette année les trios vocales Bloom, les chanteuses Lou Tavano, Leila Martial, la violoniste Olive Perrusson, la flûtiste Ludivine Isambourg, la clarinettiste Elodie Pasquier, les pianistes Karine Bonnefoy, Leila Olivesi, les batteuses Lada Obradovic et Julie Sori. » Résonance avec notre temps, encore l'engagement d'un festival comme le New York City Winter Jazz Fest à parvenir à l'égalité de genre d'ici 2022, ou encore la présence d'une femme depuis 2017 à la direction de l'un des plus anciens festivals allemands, le Berlin Jazz Fest. La liste pourrait s'allonger. Quelque chose est évidemment en train de changer, bien au-delà du microcosme du jazz. Impossible, évidemment, de ne pas voir une réalité et un ensemble de mutations apparaître dans les mentalités comme dans l'organisation sociale. Une réalité parfois difficile à vivre quand, par exemple, l'injonction de parité vient d'en haut et se heurte à des réalités comme, pour ma part, j'ai pu vivre deux exemples très récemment, à la fois pour mon remplacement à la présidence d'un concours national pour lequel je devais être remplacé par une professeure femme et la difficulté se posait en termes de vivier et de disponibilité d'un nombre de femmes réduit, ou encore la rareté criante des femmes au grade de professeur d'université qui entraîne de grosses difficultés parfois dans la constitution des jurys, et c'est un exemple aussi tout récent pour moi, notamment en ce qui concerne la recherche sur le jazz. Donc que personne ici ne se sente visé, mais ce problème est un problème d'actualité qui touche aussi les universitaires. Pour revenir à la place des femmes dans le jazz, si l'on continue de l'apercevoir en termes quantitatifs ou statistiques, les initiatives décrites précédemment et le constat que quelque chose change ne bouscule pas pour autant radicalement la réalité, prise dans son ensemble, et qui demeure bien une musique jouée, composée, dirigée, enregistrée et administrée majoritairement par des hommes. Les résultats de l'étude citée plus haut, que j'ai noté au vol dans une nuée de chiffres, j'en donne quelques-uns, 85% d'hommes sur les scènes dans les programmes proposés par l'association AGC, le collectif de 80 festivals, clubs et scènes labellisés, 32% des grands ensembles sur 47 au total ne comptent et n'ont jamais compté aucune femme. À cette inégalité s'ajoute une très forte et bien connue disparité entre chanteuses et instrumentistes, de même qu'une très inégale représentation des femmes selon l'instrument considéré. Dans les ensembles programmés par AJC, 83% des chanteurs sont des chanteuses, alors que 12% des instrumentistes sont des femmes. Des chiffres qui concernent ou qui entraînent beaucoup d'autres disparités ou situations d'inégalité moins visibles. Par exemple, les musiciennes de jazz sont plus nombreuses que les hommes à déclarer l'enseignement comme activité principale et enseignent principalement le chant dans les écoles, quand bien même elles déclarent une activité d'instrumentiste professionnel. Il semble que les chiffres qui ont été donnés la semaine dernière ne modifient que très peu, même si la méthodologie diffère, ceux présentés en 2007 par Marie Buscato sur la base de données de 2004. Le chiffre d'environ 8% de femmes au sein des quelques 2000 musiciens de jazz considérés alors comme professionnels descend à moins de 4% si on ne considère que les femmes instrumentistes. Donc, vous comprendrez bien que je ne puisse pas, ici, dans l'introduction, préciser ces données, ni les compléter d'un certain nombre d'autres indicateurs d'une situation générale d'inégalité en matière d'entrée, de maintien des femmes dans l'activité professionnelle, de vie de famille ou encore de répartition dans les structures de diffusion, équipes techniques, artistiques ou administratives. À ce stade, on peut affirmer, d'une part, que les choses changent, mais qu'elles changent peu, mais qu'elles changent malgré tout, voire par exemple la féminisation avérée de certains instruments, comme la contrebasse ou la guitare, et qu'au-delà de l'évidente médiatisation de la question, dans un contexte nourri d'événements, de scandales, de débats, de mesures, concernant tous les domaines de l'organisation sociale, le monde du jazz a au moins acquis une capacité à identifier et nommer les enjeux liés à la place des femmes, ainsi qu'à produire une réflexion et des propositions face à la question des inégalités de genre. La présence de Marie Buscato communiquera tout à l'heure, que je remercie pour l'intérêt qu'elle a porté à cette initiative, témoigne de l'ancrage sociologique profond de la question qui nous occupe aujourd'hui. Toutefois, d'une part, notre collègue est venue aujourd'hui évoquer une recherche éloignée du terrain français, qu'elle présentera tout à l'heure. D'autre part, cette journée d'études, comme l'indique son titre et comme ambitionne son programme, ne se limitera ni au domaine français, ni à la question de la sous-représentation des femmes. J'ai souhaité que se croisent les approches et les disciplines, principalement l'histoire, la sociologie et la musicologie, l'analyse textuelle également, l'historiographie, pour provoquer une réflexion qui articulerait l'étude de la situation minoritaire des femmes dans le jazz avec celle de leur mode de présence, mode d'action, mode d'organisation, mode de jeu, etc. Quelle relation peut-elle, doit-elle se tisser entre la domination historique de l'ensemble des circuits de production et de diffusion du jazz par les hommes et l'émergence de logiques esthétiques, je le mets entre guillemets, c'est tiré d'un entretien de Stéphane Olivier avec Marie Buscato, de logiques esthétiques possiblement différentes, sinon féminines. Plusieurs communications, Ludovic Florin, Marie Buscato et le concert conférence donné par Chloé Caïton et Léo Malbrook tout à l'heure, occasionneront des questionnements autour des mécanismes d'alternatives créatrices où pourraient se lire et s'entendre la part prise par les femmes dans cette musique d'hommes. Les études sur le genre représentent un axe à part entière du laboratoire organisateur de cette journée, ICD, Interaction culturelle et discursive, auquel nous sommes plusieurs musicologues du département de Tours à appartenir. Pour autant, en tant que musicologue du jazz, pour ma part, s'étant jusqu'ici consacré à des répertoires variés et presque exclusivement masculins, je dois bien l'avouer, dans une perspective à la fois historique et analytique, j'ai bien conscience d'effectuer un pas de côté vers un domaine, les études féministes, ou centrées sur la question du genre, domaine à l'histoire déjà longue et, à l'échelle du temps présent en tout cas, aux assises théoriques fournies et aux champs d'application très régulièrement élargis, pour former un corpus d'études déjà conséquent. Donc je limite ici l'illustration de cette réalité avec un échantillon représentatif des recherches les plus récentes touchant à la place des femmes ou plus largement à la question du genre dans la littérature, la musique et les autres arts, produits au sein de laboratoires universitaires français, pas uniquement le laboratoire ICD, dans les 5 dernières années. Je me limite ici, sur ces 2 diapositives, à des initiatives de journées d'études ou colloques. Donc, de ces 5 dernières années, y compris dans quelques-uns des mois à venir, avec notamment les 3 dernières manifestations mentionnées ici, dont 2 se tiendront à Tours. Posons donc nos pas dans les traces ouvertes par les spécialistes de ces questions féministes et des questions de genre depuis plusieurs décennies pour ce qui concerne les femmes dans le jazz. J'ai ici reproduit un certain nombre de références incontournables sur ces questions et faisons dialoguer avec nos grandes oreilles, pour paraphraser le titre de l'article de Sherry Tucker que je suis en train de traduire pour la publication de cette journée. Posons donc non pas dans ces traces, faisons dialoguer avec nos grandes oreilles les sciences humaines, les sociales et la musicologie. En dépit du format modeste de cette journée, chacun des termes retenus dans son titre prendra son sens, je l'espère, loin de toute prétention à l'exhaustivité, à travers la variété des traitements qui seront proposés par les intervenants, parmi lesquels, très malheureusement, nous fait défaut Anne Legrand, qui a annulé sa participation et qui devrait me faire parvenir des éléments précis qui me permettraient de lire une partie et de présenter une partie de son propos. Place des femmes, même s'il est question ici des femmes dans le jazz, les femmes envisagées, les musiciennes, mais pas seulement. La question du genre sera envisagée au sens large dans l'historiographie de l'entre-deux-guerres par Martin Guerpin. Pierre Fargeton se penchera pour sa part sur la place d'une activiste de la cause du jazz dont l'activité de critique a été éclipsée par la notoriété d'un mari très encombrant. D'hier à aujourd'hui, deuxième terme de la journée, il y a bien sûr un souhait d'ouverture chronologique qui viendra renforcer le croisement des disciplines et viendra épaissir la recherche des perspectives ouvertes par les contributions les plus tournées vers l'actualité, voire le devenir de la question. Tel est l'état des lieux qui vous est proposé aujourd'hui et qui sera modéré dans sa partie matinale par notre collègue professeur de littérature et membre du CD, Hélène Morel-Indard, que je remercie chaleureusement pour sa disponibilité. Au moment de l'invitation que je lui ai adressée, je ne connaissais pas je n'avais pas en tête la parution imminente de l'ouvrage qui vient de sortir sous sa direction, Femme artiste et écrivaine à l'ombre des grands hommes.
C'est le hasard.
Sans quoi je ne l'aurais pas simplement sollicité, je l'aurais supplié d'être parmi nous ce matin. Je voudrais terminer avec quelques remerciements indispensables. D'abord aux intervenants pour leur disponibilité, la richesse des propositions et les conseils parfois reçus dans la préparation de cette rencontre. Remercier le service culturel de l'université pour le soutien financier qu'il apporte à cette manifestation à travers la convention DRAC Centre Université, notamment pour permettre la tenue d'un concert-conférence qui aura lieu tout à l'heure à 15h30. Le laboratoire ICD, bien sûr, pour à travers sa directrice Elisabeth Gavoil et tout particulièrement Isabelle Cochet-Pémira, la secrétaire du laboratoire qui a pris en charge la logistique de cette journée. Isabelle Cochet, formidablement dévouée et efficace. Gilles Horry, notre technicien, logisticien, qui déploie les mêmes qualités avec une constance admirable. Et l'UFR, Arts Sciences Humaines, qui nous soutient de façon générale pour la musicologie, d'un point de vue pédagogique, comme au plan de la recherche, notamment dans la défense acharnée de notre potentiel humain, de nos enseignants, enseignants-chercheurs, personnel technique et administratif, fortement mis en danger par les restrictions en vigueur. Tout cela au service de nos étudiantes et de nos étudiants. Bon, merci enfin à Anthony Benito, notre étudiant de master, qui a donné un précieux coup de main pour la mise en place de cette matinée.
Martin Guerpin, Université Évry-Val d'Essonne, les écrits sur le jazz européen dans l'entre-deux-guerres, un discours genré.
Merci aussi à vous, Martin Guerpin, d'être venu à Tours. Vous êtes maître de conférence à l'université d'Évry-Val d'Essonne. Vous n'êtes pas trop éloigné de nous.
Ça va, je suis pas très loin.
Voilà. Alors, vos travaux portent sur l'histoire européenne du jazz et sur les relations entre musique et identité. Donc, vous avez publié dans plusieurs revues, hein, revue de musicologie, les cahiers de la SQRL, ça veut dire quoi alors, société?
Alors, c'est la Société québécoise de recherche en musique.
Très bien, les cahiers du jazz aussi, Genesis, la revue d'histoire du théâtre, Alors, votre thèse, hein, de doctorat, puisque c'est quand même la fondation de votre carrière de chercheur, porte sur les appropriations savantes du jazz dans le monde musical savant parisien, 1900-1939. Et la bonne nouvelle, c'est que cette thèse va être publiée chez Vrin.
Chez Vrin, voilà, c'est ça, voilà. C'est en cours.
C'est en cours, hein, oui, c'est ce que j'ai vu. Et vous préparez aussi une anthologie de textes francophones sur le jazz dans les années 1920.
C'est ça, exactement. Ça, c'est en cours et c'est là-dessus, enfin, je me fonderai en partie là-dessus. Merci beaucoup pour cette présentation.
Et vous coordonnez le projet de recherche international Musique et Nation. Donc, c'est en partenariat avec l'Université de Paris-Saclay, le CNRS, le Royal Northern College of Music in Manchester et l'Université de Montréal. Je crois que je vais arrêter parce que il va être tout confus. Tant de gloire.
En tout cas, le timing était parfait parce que j'ai eu le temps d'activer ma recopie d'écran à l'instant que je cherchais désespérément. Eh bien, merci beaucoup. Merci pour cette présentation. Bonjour à toutes et à tous. Et je voudrais commencer par remercier Vincent. Enfin, d'abord, Isabelle Pochet, parce que c'est moi qui ai été long à répondre aux mails et c'était très efficace. Enfin, vos réponses ont été très efficaces. Et donc, merci à Vincent. Et je suis d'autant plus content d'être ici que c'est il y a, en fait, exactement 10 ans, je crois, que j'avais fait ma première journée d'études parce que j'étais un jeune étudiant en master. Bah, c'était, alors, pas dans cette salle-là, mais dans le même bâtiment, en tout cas. Et c'est intéressant parce que cette première journée d'études, j'avais communiqué sur quelque chose qui relevait de l'histoire des femmes, en fait, dans l'histoire du jazz en France, puisqu'il s'agissait de parler d'une directrice d'établissement de dancing parisien qui s'appelle américaine, une afro-américaine qui s'appelle Bricktop, donc Louise Ada Bricktop Smith, qui dirigeait en fait un dancing à Montmartre, à Paris, dans les années 1920, qui était en fait un des premiers hauts lieux du jazz parisien. Donc, voilà, c'était ma première communication portée sur finalement l'histoire des femmes en l'occurrence dans le jazz français. Et en fait, c'est une histoire qui est particulièrement intéressante, cette histoire des femmes dans le jazz, parce que bon, elle concerne en partie des chanteuses, mais pas seulement. Hein, je citerai juste rapidement là, Vincent a cité les références, mais dans les années 30 et les années 1940, par exemple, déjà plusieurs femmes, alors évidemment qui demeurent une minorité au regard de tout le vivier des musiciens de jazz de l'époque, mais pas mal de femmes en tout cas ont pu mener des carrières d'instrumentistes dans des big bands féminins, mais qui étaient exclusivement féminins. Donc leur histoire, par exemple, vous la trouvez évoquée rapidement dans le film Some Like It Hot, par exemple, pour prendre un film connu. Et cette histoire a été retracée par Sherry Tucker, alors dans un livre qui n'était pas dans la liste là-haut, mais qui s'appelle Soon Shift, All Girls Bands of the 1940s. Donc ça retrace en fait toute l'histoire de ces big bands féminins qui se sont développés notamment parce que les musiciens masculins étaient partis, étaient à la guerre aux États-Unis. Mais en tout cas, dans l'article que j'avais produit à l'issue de la journée organisée par Vincent, comme dans le travail de Sherry Tucker, la perspective adoptée c'était bien l'histoire des femmes. Et là, l'approche que je voudrais adopter aujourd'hui, elle est un petit peu différente puisque il s'agit d'une approche plutôt genrée du jazz. Donc plutôt que de parler d'histoire des femmes, là, je parle plutôt du masculin et du féminin dans la critique de jazz, en l'occurrence dans le discours sur le jazz. Alors par genre, peut-être vous savez qu'il y a cette distinction, enfin cette distinction connue aujourd'hui entre le sexe et le genre, hein. Par genre, j'entends non pas les différences sexuelles biologiques entre hommes et femmes, mais bien la différence entre masculin et féminin. C'est-à-dire masculin et féminin, hein, les rôles et les comportements psychologiques et sociaux, souvent stéréotypés, qui relèvent d'une définition synthétique, en fait, que j'ai récupérée dans un article que j'avais lu pour préparer cette journée. C'est une définition que je trouve bien faite, qui est faite par une Chantal Morley, qui est une spécialiste en sciences de la communication. Et donc, elle nous explique que, je la cite, le stéréotype de genre est un ensemble de caractéristiques psychologiques et comportementales qu'un groupe social attribue généralement à un homme, donc là on est dans le stéréotype de genre masculin, ou bien à une femme, auquel cas on est dans le cas d'un stéréotype de genre féminin, évidemment. Alors, évidemment, les choses aujourd'hui, avec toute la musicologie, enfin les études queer par exemple, montrent que la binarité des genres n'est pas si évidente que ça, mais je m'en tiendrai en tout cas là pour aujourd'hui, parce que dans la période que je vais aborder, on en reste à ces deux polarités, masculin-féminin. En tout cas, cette manière d'interroger la musique, et le jazz en particulier, au prisme du genre, il faut savoir qu'elle vient d'être nouvelle. Alors, je ne vais pas remonter à l'Antiquité, mais il faut savoir quand même que dès 2700 avant notre ère, dans la théorie musicale chinoise, par exemple, vous avez certains des théoriciens qui vous expliquent que certains modes sont plutôt masculins, tandis que d'autres sont plutôt féminins, qui attribuent ça donc à des caractéristiques psychologiques et comportementales attribuées à l'époque au masculin et au féminin. Mais plus proche, je ne vais donc pas tout faire cette histoire-là, rassurez-vous. En tout cas, plus proche de nous, il y a des chercheurs, notamment américains, qui se sont interrogés, surtout des psychanalystes et des cognitivistes, qui se sont interrogés dès les années 40 sur ce qui relevait du masculin et du féminin en musique. Souvent d'ailleurs en essentialisant plus ou moins les caractéristiques identifiées précisément comme masculines et féminines. C'est-à-dire, un homme est censé être entièrement masculin, et donc il va avoir telle ou telle préférence musicale. Une femme est censée être exclusivement féminine, donc c'est-à-dire le féminin et le masculin ne sont pas détachés du fait d'être homme ou femme, ce qui a évidemment beaucoup changé dans l'approche qu'on a aujourd'hui du genre. Et donc par la suite, à la faveur du développement de la New Musicology dans les années 1990, eh bien les études de genre appliquées à la musique, notamment celles qui ont été lancées par deux travaux fondateurs, qui sont ceux de Suzanne McClary, que vous avez ici, et l'autre notamment de Suzanne Cuisic, pour la musique, eh bien, en fait, on proposait donc une approche genre, enfin, par l'histoire du genre de la musique, mais qui faisait cette fois l'objet d'approches non pas essentialisantes, mais d'approches historiques et critiques. C'est-à-dire qu'on prenait une distance avec ce qu'on considérait à telle époque comme relevant du masculin ou bien relevant du féminin. Et en fait, ces dernières perspectives et ces questions posées par des gens comme McClary et Cuisic, elles m'ont semblé particulièrement intéressantes à poser dans le cadre du projet de recherche que je mène actuellement, alors qu'était initialement un projet de postdoc Marie Curie, avant que je trouve mon poste à l'université. Et donc il s'agissait de proposer une histoire européenne du jazz. Alors de quoi s'agit-il pour cette histoire européenne du jazz, qui est en fait le projet sur lequel je travaille actuellement? Eh bien, il s'agit d'identifier des années 20 à nos jours, en fait, les processus d'émergence d'un monde du jazz européen intégré, et européen, pourquoi? Parce que plus ou moins autonome du monde du jazz américain, en regard duquel il se construit et il se distingue en fait dès le début des années 20, c'est-à-dire dès les premières années de l'arrivée du jazz en Europe. Et deuxièmement, il s'agit de retracer et d'analyser, alors avec une distance évidemment critique, les distinctions stylistiques, c'est-à-dire musicales là pour le coup, qui ont pu être proposées pour différencier un jazz européen, comme on l'a pu dire, ou comme on peut encore dire aujourd'hui, d'un jazz américain. Et là, je parle pas seulement d'un jazz joué par des Européens, mais de certaines personnes, comme Berendt, par exemple, qui ont parlé d'un jazz esthétiquement européen, on va dire, d'un point de vue esthétique. Donc, je voudrais dire ici merci à Vincent, parce que cette journée, en fait, dans le cadre de ce projet que je viens de décrire, eh bien, elle me permet de l'enrichir quelque part en posant la question, en l'interrogeant via la question du genre, ce à quoi je n'avais pas vraiment pensé au début. Et en fait, je poserai donc la question suivante qui servira de fil rouge à ma présentation. Là voilà cette question. En fait, les distinctions proposées par les musiciens et les critiques du jazz entre musique européenne et musique américaine, eh bien, ces distinctions ont-elles été associées ou recoupées avec des distinctions de genre? Alors, je précise tout de suite qu'en posant cette question, je ne cherche pas à déterminer si tel ou tel jazz relève plutôt du masculin ou du féminin, mais je me situe bien au niveau des représentations et des stéréotypes du masculin et du féminin qui étaient en circulation pendant la période de l'entre-deux-guerres sur laquelle je vais me focaliser, et même plus précisément sur la période des années 20, parce que vu la masse de corpus à laquelle j'ai été confronté, j'ai préféré me cantonner à ces années 20. La seconde raison pour laquelle je reste sur les années 20, c'est qu'il y a une cohérence sur cette décennie, et la question évolue un petit peu dans les années 1930. Donc on se retrouve dans un autre cas de figure, une autre configuration. Donc là, dans l'économie de la journée d'études, j'ai préféré, en travaillant finalement, me focaliser sur les années 1920. Donc je tâcherai ici là de repérer et d'analyser des représentations genrées dans le discours sur le jazz américain et européen, et en fait de manière plus large que ce que j'annonçais il y a quelques mois dans le résumé que j'ai envoyé à Vincent, en fait plus généralement sur la musique et sur l'art américain et européen. Donc il est vrai que entre l'intuition que vous avez à la base quand vous proposez une intervention comme ici, et tout ce qui arrive pendant que vous travaillez, les changements, les bifurcations qui se passent, il y a parfois quelques petites différences. Donc j'ai choisi d'élargir la perspective. Donc pour effectuer ce repérage, dans le discours critique, je me suis appuyé sur un double corpus de textes. Le premier, c'est le corpus francophone qu'on est en train de rassembler avec Laurent Cuny sur les textes précisément francophones sur le jazz dans les années 20. Donc ça, c'est issu des annexes de ma thèse et puis des recherches personnelles de Laurent. Donc on a dans cette anthologie entre 200 et 250 textes français, belges, québécois, pardon, Suisse, et puis aussi des textes qui viennent de tout l'empire français de l'époque, donc d'Afrique du Nord, de Syrie, du mandat en Syrie, etc. Donc on a beaucoup de textes francophones qu'on peut interroger ici, et également un corpus anglophones que là j'ai tiré notamment de textes produits par les deux chefs d'orchestre, en fait musiciens de jazz les plus connus des années 1920. Alors c'est peut-être pas ceux que vous avez en tête, si on parle des années 20, on va peut-être parler de Fletcher Anderson, Duke Ellington, Louis Armstrong, en tout cas le début de la carrière de Armstrong, mais en tout cas les plus connus d'époque, les plus successful, entre guillemets, les plus mainstream. Ces deux chefs étaient l'Américain Paul Whiteman, d'un côté, et puis de l'autre côté, côté européen, en fait, Jack Hilton, un musicien de jazz anglais. Et donc, je m'appuierai ici sur des textes qui sont tirés de leurs archives respectives. Donc, les archives de Jack Hilton qui sont conservées à l'université de Lancaster, en Angleterre, au nord de l'Angleterre. Et puis, les archives de Paul Whiteman qui sont conservées au Williams College, dans le Connecticut, aux États-Unis. Dans un endroit tout à fait charmant. Donc, face au nombre de textes à dépouiller et face à la spécificité des années 20, voilà pourquoi j'ai choisi de me cantonner à cette décennie. Et en fait, cette spécificité, donc, hein, j'ai découvert au cours de mes recherches, puisque contrairement à mon intuition initiale, celle que je présente dans le résumé de cette communication, les distinctions genrées entre musique américaine et européenne ont été formulées par les musiciens et les critiques des années 20, en fait, à plusieurs niveaux. Moi, au début, je pensais qu'il n'y avait que le niveau de la distinction entre jazz européen et jazz américain, et en fait cette même distinction, on la retrouve appliquée à trois échelles, si vous voulez. Et donc ce sont ces trois différents niveaux que je voudrais aborder de manière successive dans cette présentation, en partant du niveau le plus général et en redescendant jusqu'au niveau le plus spécifique. Et donc, on y va tout de suite, hein, avec le premier niveau. Donc le premier niveau concerne plus généralement la figure du jazzman américain qu'on retrouve un peu en fil rouge de plein de textes dans les années 1920, et donc la figure du jazzman afro-américain au regard de ce qu'il est censé apporter ou faire, pour le dire rapidement, à, de façon très générale, à la civilisation, à la culture et à la civilisation européenne. Voilà. Donc, dans la plupart des textes qui abordent ce thème-là, ou ce premier niveau que j'aborde, au niveau général, bon, il faut retenir que ce sont des textes qui appartiennent autant à la critique musicale qu'à la fiction, c'est-à-dire notamment à des romans ou parfois à des pièces de théâtre aussi, qui mettent en scène des figures de... Alors je dis jazzmen, mais en fait je devrais dire musicien et musicienne de jazz pour être plus précis, parce que jazzmen c'est déjà un terme genre. En fait. Et donc on retrouve souvent donc, le jazz dans ces textes-là figuré par une figure masculine, celle précisément du jazzman afro-américain. Et en fait, ce qui m'intéresse, c'est que cette figure du jazzman afro-américain, elle est souvent surmasculinisée. Et cette masculinité, bon, on la retrouve souvent évoquée de manière indirecte à travers l'attribution de caractéristiques qui sont alors associées, donc dans les années 1920, à la masculinité. Par exemple, on va associer le musicien de jazz afro-américain à des notions de force, de puissance, d'énergie, de suractivité, ou encore on lui a donné des attributs phalliques. Donc on va insister sur le fait, typiquement, qu'il joue d'un saxophone ou d'une trompette. Voilà, ce sont des analyses qui ont été faites par exemple par Kring et Bard sur l'aspect phallique de ces instruments pour surmasculiniser certains musiciens, afro-américains en particulier. Mais, en fait, dans les années 20, on peut trouver des associations plus directes et explicites qui nous permettent de pas trop sombrer dans la surinterprétation entre la figure du jazzman nègre, donc nègre, je reprends le texte utilisé à l'époque, donc cette association directe, on la retrouve par exemple dans cet extrait que j'ai recueilli dans un texte d'Albert Jeanneret. Alors qui c'est Albert Jeanneret, hein? C'est un violoniste et compositeur suisse qui était proche des avant-gardes, et c'était aussi tout simplement le frère de l'architecte Le Corbusier. Et donc Jeanneret, c'était le fondateur au début des années 20 de l'école française de rythmique et d'éducation corporelle. C'était en fait un proche de Jacques Dalcroz qui s'intéressait à ces problématiques-là. Donc son intérêt pour le rythme l'a amené à se pencher sur le jazz qui était avant tout perçu à l'époque comme un phénomène rythmique nouveau. Et donc en 1927, dans la revue musicale française la plus prestigieuse, donc la revue musicale de Henri Première, Jeanneret consacre un article au jazz afro-américain qui s'appelle « Le nègre et le jazz » dans lequel il affirme sans embâche que, je cite, « Le nègre possède peu d'instruments chantants, l'affirmation masculine de sa force physique par le rythme percuté lui suffit. » Donc je m'arrête ici, mais c'est juste pour dire que voilà, c'est ce genre d'association, sur masculinisation de la figure du jazzman afro-américain, sont parfois extrêmement explicites. Et donc la même année, en 1927, l'idée de faire de la figure du jazzman afro-américain et de sa musique des parangons de la masculinité sont exploitées par, alors je passe dans la fiction cette fois, par un écrivain de premier plan, hein, il s'agit de Philippe Soupeau en l'occurrence, Philippe Soupeau qui s'est fait connaître en 1919 pour avoir inventé l'écriture automatique avec André Breton, ce qui a donné le recueil Les Chants Mélodiques, un des points de départ, on va dire, du mouvement surréaliste français. Et donc, dans un roman intitulé Le Nègre, publié en 1927, Soupeau va mettre en scène un batteur afro-américain qui s'appelle, dans le roman en tout cas, Edgar Manning. C'est le héros du roman. Héros, Edgar Manning, qui lui a été inspiré par un musicien du Southern Syncopated Orchestra de Harry Wellman, initialement de Nomad Cecil, puis ensuite, quand il vient en France, dirigé par Harry Wellman, et qui est venu en France en 1921 et qui notamment a fait découvrir Sidney Bechet aux amateurs de jazz parisiens. Et en fait, dans le roman, dans Le Nègre, donc, ce nègre, Edgar Manning, est un personnage, un batteur, qui aspire à la liberté et qui cherche constamment à s'évader des contraintes de la vie quotidienne, notamment en jouant du jazz. Mais, en fait, ses ambitions sont limitées par la femme qu'il fréquente. Donc, évidemment, ça peut nous sembler un petit peu misogyne aujourd'hui, mais ça le semblait déjà à l'époque, en fait, rassurez-vous. Et donc, cette femme est une prostituée qui s'appelle Europe. C'est le nom que lui donne Philippe Soupeau. Et donc, Europe, prostituée qui, elle, en fait, court après des objectifs bien moins idéaux que Edgar Manning. Europe cherche en effet à réunir un petit pécule grâce à son activité de prostitution afin, je la cite, de s'établir boutiquière. Et donc finalement, Europe, dans ce roman, va représenter le rêve petit bourgeois dominé par le culte de l'argent et du conformisme. Conformisme, donc rêve que Soupeau attribue évidemment à l'Europe de façon allégorique et de façon assez transparente. Et donc, à travers Europe, Soupeau va nous représenter une féminité non pas pourvoyeuse de mystère et de charme, ce qui pouvait être, par exemple, la féminité caractéristique de l'orientalisme français, par exemple, à la fin du XIXe siècle, mais là, cette fois, cette féminité est une féminité, on va dire, dégradée. Europe, elle est en effet présentée dans le roman de Soupeau comme une égérie du prosaïsme, on pourrait dire, du prosaïsme étriqué, c'est-à-dire un symbole de ce que serait devenu la culture et la civilisation européenne, après l'espèce de suicide collectif européen qui s'est produit pendant la Première Guerre mondiale. Je vous rappelle qu'on est à une époque où, c'est l'époque où il y a cette phrase très connue, 1919, dans La crise de l'esprit de Paul Valéry, nous autres civilisations, entre parenthèses européennes, nous savons maintenant que nous sommes mortels. Voilà. Et donc, à une période où ce thème du déclin de l'Europe est partagé par de nombreux intellectuels, eh bien, Soupeau va faire, à la fin de son roman, poignarder la prostituée Europe par Edgar Manning lui-même, pendant qu'ils font l'amour. Donc il y a une scène assez dantesque qui reproduit ça. Et donc, une lecture allégorique de cette association du poignard et du sexe du jazzman afro-américain permet de faire apparaître en filigrane dans le roman Philippe Soupeau l'idée selon laquelle le jazz, qui est ici associé à un principe masculin, pourra mettre fin à une culture européenne en bout de course et de la régénérer pour lui donner un nouvel élan vital. Parce que s'il y a bien quelque chose de vital, enfin l'élan vitaliste dans ce roman-là, il est bien associé à la figure d'Edgar Manning. Et donc cette idée selon laquelle la culture européenne est présentée sous des traits féminins, donc sous les traits d'une culture qui pourrait être fécondée par la culture africaine et la culture américaine, eh bien elle est aussi à l'œuvre dans le domaine plus spécifique, alors non pas cette fois de la civilisation ou de la culture en général, mais de la musique. Et en fait cette idée du jazz comme musique afro-américaine qui viendrait féconder l'art et particulièrement la musique européenne, est quasiment devenu en fait un lieu commun dans les années 1920. Et donc là, j'en arrive au second niveau, donc on rétrécit un petit peu la focale et on va se concentrer cette fois sur le jazz américain et la musique, l'art, on va dire, mais en particulier la musique européenne, pour voir aussi que là aussi, dans les comparaisons, les confrontations de ces deux domaines musicaux, eh bien, souvent, cette comparaison est ramenée à une comparaison genre. Donc c'est le deuxième niveau que j'aborde ici. Donc ce lieu commun dont je parlais, il est formulé en fait dès 1919, c'est-à-dire à peu près le tout début de l'histoire du jazz en Europe, c'est le tout début de la diffusion du jazz en Europe. Donc lieu commun formulé par l'un des premiers artistes français à porter une attention particulière au jazz américain, et en fait il s'agit du poète Jean Cocteau. Et dans l'une des cartes blanches, c'est une rubrique que Jean Cocteau contribue régulièrement dans un grand quotidien français de l'époque qui s'appelle Paris Midi, après la Première Guerre mondiale, eh bien, Cocteau va aborder le rôle, dans une des cartes blanches, il aborde le rôle que le jazz doit jouer, selon lui, pour la musique européenne. Donc il ne décrit pas seulement le jazz pour lui-même, ce qui est déjà très intéressant, parce que c'est une grande nouveauté à l'époque, mais il décrit en fait ce que peut représenter le jazz pour la musique européenne. Et donc, dans ce texte-là, c'est un texte qu'on cite souvent pour en fait son début, mais si on lit jusqu'à la fin, on peut trouver, ça arrive souvent, il y a des textes dont on cite une partie, et en fait finalement on oublie de lire le reste du texte tellement on se focalise sur une seule de ces parties. Eh bien, ce rôle du jazz, là, est abordé de manière explicitement genrée. Donc voilà ce que dit Cocteau. Depuis des années, l'art, donc il parle de l'art européen, se développait sous le signe féminin. La parisienne des deux expositions, donc sous-entendu universelle, celle de 89 et de 1900, tenait la France sous ses jupes. Donc là, c'est du style Cocteau, on est bien chez Cocteau, là. L'art subit cette pénombre, ses mousselines, ses charmes, ses parfums énervants. Et donc, de charpenter, musclé, net, les musiques, les poèmes, les tableaux devinrent onduleux, moelleux, vaporeux. Wagner et Dostoïevski furent les chefs d'orchestre de cette période. Or, sans contour, c'est-à-dire sans dessin, c'est aussi un autre terme cher à Cocteau, il nous reste une grâce féminine. Machine, gratte-ciel, paquebot, nègre furent certainement l'origine d'une direction neuve, excellente. Ils marchèrent sur capot comme une armée d'éléphants. Avec le jazz, la courbe, la guirlande, le rébus, les dissonances précieuses cédèrent la place à un désordre plus brutal, contact sauvage, l'art se virilise. Donc, sous la plume de Cocteau, déjà c'est très intéressant parce que ça, ce topos-là, il préfigure hein, la comparaison bien connue de Céline entre les villes européennes couchées et les villes américaines dressées à moitié phallique. Alors, c'est dans un tout autre contexte pour Céline, mais il y a déjà cette idée qui est en germe chez Cocteau ici. Ce qui m'intéresse, c'est que là, le jazz est présenté donc comme un principe bien masculin, destiné à féconder et donc à régénérer un art et une musique européenne présentés comme de belles endormies, j'ai envie de dire, perdues dans une forme de décadence, et du point de vue musical, c'est tout ce que va critiquer Cocteau dans le debussisme et dans le wagnerisme, notamment dans un de ses ouvrages plus connus, qui est Le coq et l'arlequin, paru la même année 1919 que cette carte blanche. Et en faisant irruption au sein de cette décadence, finalement, européenne, le jazz doit, selon l'auteur du coq et l'arlequin, se marier à la musique européenne et la renouveler en lui insufflant son dynamisme. Et donc cette idée d'un jazz musique, un jazz masculin susceptible de féconder, de renouveler une musique européenne, présentée sous le signe là, très clairement, de la féminité, elle est intéressante, selon moi, à trois titres au moins. Parce que premièrement, elle constitue un programme, enfin à deux titres, en fait, je vais être plus modeste. Premièrement, elle constitue un programme esthétique qui a été suivi de façon réelle par des compositeurs alors proches de Cocteau et membres du groupe des Six. Alors, pas tout le groupe des Six, mais au moins deux compositeurs, Georges Auric et Darius Milhaud, qui ont utilisé le jazz dans leur propre composition, exactement à la même époque, précisément dans la perspective définie ici par Jean Cocteau. Et deuxièmement, Cocteau propose en fait deux associations qui ne figurent pas dans les chaînes de position genrées proposées par Suzanne Kuzik. Alors j'ai montré un tableau qui est issu de l'article que je citais au début de mon intervention pour vous montrer un petit peu ce que font des chercheurs comme Suzanne Kuzik. Là, il s'agit de, à partir de sa lecture de traités théoriques, en l'occurrence de la Renaissance, d'isoler les notions, les caractéristiques qui étaient, à une époque donnée, celles de la Renaissance, dans une région donnée, en l'occurrence l'Italie, celle de Monteverdi et d'Artusi, lors de leur querelle, d'associer ce qui était associé au masculin et ce qui était associé au féminin dans la musique. Bon, c'est un petit peu le genre de choses que j'essaie de faire ici, en le transposant aux années 20 et au jazz. En tout cas, ce qu'on voit ici, c'est que les associations proposées par Cocteau ne figurent pas dans ces chaînes d'opposition genrées, c'est normal parce qu'on n'est pas à la même époque, mais on peut voir, en tout cas chez Cocteau, que le masculin est présenté comme un principe actif, agissant en musique, tandis que le féminin est renvoyé à la passivité, ce qu'on retrouve aussi dans la littérature très souvent à la même époque, dans les études de genre consacrées à la littérature, on peut retrouver ça. Mais chez Cocteau, en fait, le masculin ici est associé à la sauvagerie, hein, il dit l'art dans le sens sauvage, point, l'art se virilise, et le féminin, par conséquent, est renvoyé à ce qui est cultivé et sophistiqué, en l'occurrence la musique européenne, donc considérée comme en décadence, parce que précisément trop cultivée, parce que précisément trop sophistiquée. Et cette association proposée par Cocteau de la sauvagerie à la masculinité, elle est largement reprise dans les années 20 en Europe, mais aussi aux États-Unis, où elle sert à présenter également l'opposition entre jazz et musique européenne, mais cette fois dans le sens opposé. Et cette opposition, elle apparaît de manière très claire dans les écrits de Paul Whiteman. Donc, au lieu de parler là de masculinisation de la musique européenne, là, on va aborder cette fois comment Paul Whiteman envisage, on va dire, la féminisation du jazz par la musique européenne. Donc, on change de perspective, c'est la perspective réciproque, si vous voulez. Donc, je commence par dire qu'il y a une phrase célèbre de Walter Damrosch, qui était le chef d'orchestre du New York Symphony Orchestra et qui a créé le concerto en fa de George Gershwin. George Gershwin qui a collaboré lui-même avec Paul Whiteman, puisque Paul Whiteman est le jazzman qui a fait la création, la première version de la fameuse Rhapsody in Blue. Et donc, c'est Walter Damrosch qui disait de Paul Whiteman, je cite, qu'il avait fait du jazz a lady. Donc, il y a cette phrase très connue qui dit Paul Whiteman made a lady out of jazz. Donc la citation, elle est évidemment intéressante pour son caractère très genré, Et de fait, Paul Whiteman voit son succès auprès du grand public américain et européen, hein, c'était un sorte de millionnaire du jazz dans les années 1920, il le doit à une formule qu'il développe dans son autobiographie publiée en 1926 et qui s'intitule Jazz. Alors, ce qui m'intéresse ici, donc je vous cite du Jack Clinton, mais c'est normal, mais c'est que la formule de Paul Whiteman, en fait, elle consiste à tempérer l'exubérance et la vigueur rythmique de ce qu'il appelle le jazz des origines, celui de Nouvelle-Orléans. Et en fait, ce qui m'intéresse ici, c'est que Jack Clinton fait exactement le même constat et propose la même formule à l'époque. Jack Clinton qualifie, donc en 1926, c'est-à-dire la même année que Paul Whiteman, ce jazz des origines, comme ils disent tous les deux, il parle de l'incroyable virilité du jazz de la Nouvelle-Orléans. Et ce qui m'intéresse ici, c'est que quand il parle de cette virilité, il l'associe pas seulement au jazz afro-américain de la Nouvelle-Orléans, mais il l'associe aussi au jazz blanc et hispanique, puisqu'ils incluent dans ce jazz dit viril la musique de l'original Dixieland Jazz Band, qui est considéré comme l'un des premiers orchestres officiels, on va dire, du jazz, et comprenait des musiciens blancs et créoles hispaniques, donc pas seulement afro-américains. Donc il faut noter ici que le caractère masculin du jazz des origines n'est pas circonscrit au jazz noir, comme je l'ai dit. Et en fait, ce jazz des origines, Paul Whiteman va le décrire à travers des caractéristiques alors associées au stéréotype de la masculinité en vigueur dans les années 1920. Donc j'ai fait un petit relevé ici des adjectifs qu'il utilise ou des noms communs qu'il utilise pour qualifier ce jazz des origines. Il parle de jazz bruyant, criard, de jazz brut de décoffrage, mal dégrossi, d'un jazz plein de vitalité, c'est ce qu'on retrouve dans la figure d'Edgar Manning de Soucault, et d'un jazz caractérisé par, je cite, sa rudesse. Donc l'idée, c'est que Paul Whiteman part de ce jazz qu'il admire, mais qu'il trouve beaucoup trop violent, pour en faire précisément une lady, c'est-à-dire un modèle d'élégance. Et pour cela, Paul Whiteman va choisir de recourir, j'utilise encore ces termes, à la partition, c'est-à-dire à l'écriture, à la composition, à l'arrangement, et il va choisir dans son orchestre des musiciens formés, comme lui l'a été lui-même, à ce qu'il appelle la musique européenne, c'est-à-dire la musique classique. Hein. Paul Whiteman, il a commencé sa carrière comme altiste dans l'orchestre symphonique de San Francisco. Donc on va utiliser la musique européenne pour rendre plus sophistiquée ce jazz des origines. Et donc ce qu'il explique, hein, c'est plus je travaillais avec le jazz, plus j'étais certain que sa vitalité authentique pouvait faire racine et se développer d'un point de vue musical grâce à ce que j'ai appelé une base symphonique. Et effectivement, la formule que je vous décris de Paul Whiteman, ce mariage entre le jazz des origines et la musique européenne considérée comme raffinée, sophistiquée, etc., etc., c'est bien ce jazz symphonique qui a eu tant de succès dans les années 1920. Donc du jazz des origines associé à ce que Paul Whiteman qualifie d'Europe artistique. Je reprends ce terme. Et donc les termes qu'utilise Paul Whiteman pour ce que doit faire en fait cette musique européenne classique et jazz, pour dire Paul Whiteman, elle doit tame, c'est-à-dire elle doit dompter le jazz sauvage, elle doit le raffiner et elle doit le sophistiquer. Donc évidemment, on retrouve encore ici une opposition genrée. Donc les débordements, les suractivités masculines du jazz des origines doivent être canalisés et adoucis par la musique européenne associée donc quant à elle à la féminité. Et le jazz qui en résulte, on pourrait le qualifier, par exemple, de sophisticated lady, pour reprendre non seulement la formule de Wotan d'Ambroche, puis pour reprendre aussi une expression qui a servi de titre à un morceau d'un jazzman bien connu en 1932. Donc je ne vous fais pas l'affront de vous dire son nom, mais je vous précise quand même que son nom commence par un E. Voilà. Alors quoi qu'il en soit, en tout cas, le jazz symphonique et son devenir dans l'histoire de l'historiographie, bon, c'est quelque chose qui s'est un peu évaporé. Hein, on n'en a plus parlé, très peu après les années 30. Ce qui est intéressant, c'est que les écrits sur le jazz de Paul Whiteman présentent un autre intérêt, puisqu'on peut déceler, toujours dans son autobiographie de jazz, là, une autre distinction genrée établie sur un troisième niveau, sur un troisième plan, qui est encore plus resserré que les deux que je viens d'aborder. Alors non plus entre le jazz et la musique de tradition écrite européenne, comme l'opposition que je viens de présenter, mais une distinction genrée établie cette fois-ci à l'intérieur même du jazz, entre jazz américain et jazz européen. Et donc ce sera ma dernière partie. Donc avant d'étudier ce troisième niveau de distinction genrée à l'œuvre dans le discours sur le jazz dans les années 20, je voudrais d'abord signaler que, d'un point de vue quantitatif, les textes qui rabattent cette distinction cette distinction genrée sur une opposition stylistique entre jazz américain et européen, ils sont moins nombreux que ceux qui relèvent des deux premiers niveaux que j'ai abordés. À l'origine, je voulais me concentrer que sur ce troisième niveau, mais ayant constaté qu'il existe d'autres niveaux, j'ai voulu en faire part, et tout simplement, là, j'avais tout simplement pas assez de matériel pour pour faire toute ma communication sur cet unique troisième niveau. En tout cas, dans la mesure des textes que j'ai pu consulter jusqu'à présent. Mais ces textes, ils existent bien, celles qui font la distinction entre le jazz européen et le jazz américain, et qui font cette distinction d'un point de vue genré. Et ce qui m'intéresse, c'est que cette distinction, elle est formulée par des plumes importantes dans le monde du jazz et dans le monde intellectuel des années 1920. Et donc, je m'arrêterai ici sur deux exemples de textes rédigés par des figures de chacun de ces deux mondes, un jazzman connu, et puis une figure intellectuelle connue en Europe dans les années 1920. Donc, le premier texte, il date en fait de 1926, donc c'est encore l'autobiographie de Paul Whiteman. Et en fait, là, on est en 1923, Paul Whiteman relate sa première tournée européenne, donc il vient en Angleterre en 1923, il commence à jouer, il est déjà admiré par tout le monde, et donc des musiciens de jazz anglais viennent assister à ses répétitions pour voir comment il fonctionne et comment ces musiciens jouent. Et donc, au moment d'évoquer ces musiciens de jazz anglais, Paul Whiteman va expliquer, je cite, que le jazz ne coule pas dans leurs veines à ces musiciens anglais. Voilà ce qu'il nous dit. Ces musiciens anglais manquent de spontanéité, d'exubérance, de courage, je sais pas, moi, donc ça c'est son style un peu oralisé dans l'autobiographie. Ce petit quelque chose que nous appelons américain, ce quelque chose d'indéfinissable qui fait le jazz. Ils ne l'ont pas, et ça n'est pas quelque chose que l'on peut rajouter à l'extérieur, comme du plâtre, ce qu'on mettra sur un mur, ce qui importe c'est le mur, c'est pas le plâtre qu'on a. La plupart des orchestres de jazz qui ont éclos à Londres ont échoué simplement à cause de cela, ils n'étaient pas américains. Plus loin, Whiteman précise que pour former un bon orchestre, ce qu'il faut faire, c'est prendre des jazzmen américains ou naturalisés américains depuis très longtemps. Voilà. Donc là, on n'est pas dans le jazz doit être black pour être authentique ou il ne sera pas authentique s'il est blanc, mais le jazz doit être américain, sinon il ne sera pas, indépendamment des considérations raciales. Donc, trois remarques à propos de ce petit texte. La première, ça concerne l'attribution de qualités alors associées au genre masculin, au jazz américain, spontanéité, exubérance, courage. Et la seconde concerne l'essentialisation de ces caractéristiques et leur association donc à l'américanité. Puisque d'après Whiteman, les qualités masculines attribuées au jazz, elles ne peuvent pas être acquises. Elles ne peuvent pas constituer un ajout extérieur, pour reprendre ces termes. Et c'est sa métaphore artisanale, on va dire, de bâtiment. Donc il faudrait donc être américain, ou au moins avoir grandi aux États-Unis et baigné dans la culture de ce pays, pour être capable de proposer un jazz doté de qualités masculines. Donc on voit ici à quel point Whiteman associe opposition genrée et opposition d'identité nationale et culturelle au jazz. En tout cas supranationale, puisque c'est Amérique d'un côté, mais Europe de l'autre. Et troisièmement, cette distinction se double d'une hiérarchisation, puisque le jazz européen des premiers temps, qu'il va décrire, d'un point de vue plutôt féminin du coup, et pour lui un échec, tandis que le sien, le jazz américain, est évidemment un grand succès, ce qui fut effectivement le cas, si on en croit les recensions des concerts de Paul Whiteman en Angleterre en 1923, c'est un succès phénoménal. Paul Whiteman, c'est celui qui fait des hits, enfin qui sont numéro 1 au hit parade dans les années 20, sachant que le hit parade existe déjà aux États-Unis. Donc voilà pour Whiteman, et le second exemple que je voudrais citer, pour finir ici, il est tiré d'un compte-rendu d'un concert de Jack Hilton, donc on va dire l'équivalent européen de Paul Whiteman, concert donné à Paris en 1928 dans un music hall qui s'appelait L'Empire. Et donc ce compte rendu, il est signé par Georges-Henri Rivière. Donc Georges-Henri Rivière, c'est quelqu'un qui était formé à la musique, bon, qui n'est pas un spécialiste de jazz, mais en tout cas qui en 1928 s'est fait connaître pour ses travaux en ethnographie et pour son activité de muséologue. Il va être en effet le fondateur du Musée national des arts et traditions populaires en 1937, et il est l'un des initiateurs du Musée de l'Homme. Donc il travaille à l'époque avec Michel Léris, avec Marcel Griol, tous ceux qui vont rediger, l'équipe qui va rédiger de l'Afrique fantôme, par exemple. Et donc, quant à Jack Hilton, lui, il est donc considéré comme le grand représentant du jazz européen des années 1920, sachant que cette expression, jazz européen, elle est déjà utilisée par beaucoup de critiques musicaux, par beaucoup de musiciens. Et donc, ce concert de Jack Hilton, il est l'occasion pour Rivière de tenter une comparaison entre jazz européen, précisément, et américain, dans une partie de sa recension qu'il intitule, je le cite, « Différence entre, tout simplement, les jazz européens et américains ». C'est ce que je vous ai isolé ici. Et voici ce qu'il nous dit. Avec Jack Hilton, l'émission, le langage même, redeviennent européens. C'est-à-dire qu'ils étaient réaméricanisés parce que Jack Hilton fait du jazz. La syncopation, donc ça, il aborde plusieurs paramètres, je m'attarde juste sur la syncopation. Il met des sous-titres dans son article. L'orchestre de Hilton est de tradition syncopée, mais on peut dire qu'il syncope moins qu'un band américain, issu d'un mélange de races particulièrement explosif. Différence essentielle avec la syncope européenne, l'américaine respire la sensualité, la violence, l'esprit de conquête et de destruction des races primitives. Et voici que Jack Hilton et son, son prudent alambic la distille, la neutralise, sécrète du gai, du mélancolique et du sentimental. Voilà. Donc ce passage m'intéresse particulièrement parce que, alors, on pourrait l'examiner dans une perspective d'étude raciale, c'est-à-dire distinction entre noir et blanc, primitivisme et modernisme, mais là je m'attarde juste sur le prisme du genre. Donc, c'est un passage qui est intéressant parce que la distinction formulée par Rivière, elle est en fait beaucoup plus précise que celle proposée par Whiteman. Puisque la distinction genrée de Whiteman, qu'il opère entre jazz américain et jazz européen, elle porte en fait sur l'esprit de cette musique. Le je ne sais quoi, comme dit Paul Whiteman, le je ne sais quoi américain du jazz que les Anglais n'auraient pas, selon moi. Alors qu'ici, en fait, Rivière parle d'un paramètre technique, hein, c'est le rythme, mais aussi et surtout le phrasé, en l'occurrence la manière de syncoper, la manière de phraser le jazz. Et en fait, comme chez Whiteman, en revanche, hein, cette distinction genrée, elle se fait de manière implicite et indirecte, c'est-à-dire qu'il ne nous dit pas ça c'est féminin, ça c'est masculin, mais il n'empêche que les caractéristiques qu'il utilise relèvent du masculin systématiquement ou relèvent du féminin systématiquement quand il s'agit du jazz européen. Donc, côté jazz américain, masculin, la sensualité, donc une caractéristique liée à l'extériorité et à l'extraversion, VS, enfin, c'est-à-dire au regard d'un terme féminin, associé alors à la féminité, la sentimentalité, donc caractéristique plutôt liée à l'intériorité et à l'introversion. Autre position que fait Rivière, la mélancolie du jazz européen, donc caractéristique plutôt féminine qu'on retrouve dans le tableau de Kuzik que j'ai montré tout à l'heure, donc caractéristique mélancolique qui implique le repli sur soi, vers l'intérieur. Tandis que du côté américain, on a la violence et l'esprit de conquête, c'est-à-dire quelque chose qui relève plutôt du masculin et qui implique une projection vers l'extérieur. Et donc en faisant cette toute petite étude, qu'on pourrait détailler évidemment, mais on retrouve en tout cas une opposition entre intériorité et extériorité, intériorité du jazz européen, extériorité ou extraversion, on va dire, du jazz américain, et plus largement en fait entre intérieur et extérieur, distinction qui est fondatrice de différences de genre, mais aussi de sexe, hein, si on se réfère aux conclusions de Bourdieu par exemple, dans la domination masculine. Voilà. Et donc pour conclure, je voudrais formuler donc trois remarques, hein, après avoir examiné rapidement ces trois niveaux. Alors premièrement, ce qui m'intéresse, après avoir fait ce travail, et sans être du tout un spécialiste des études genrées, mais ça n'empêche pas qu'il faut quand même s'y intéresser lorsqu'il y a quelque chose, un objet en tout cas à saisir, eh bien, ce qui m'intéresse, c'est que la polarité masculin et féminin, elle semble bel et bien pouvoir être considérée comme un topos dans le discours sur le jazz américain et européen. Et cette polarité, elle fonctionne à la manière d'un schéma d'opposition qui s'ajoute à d'autres schèmes d'opposition qui sont fréquemment utilisés dans les textes comparant jazz européen et jazz américain. Alors ce sont des schèmes d'opposition qui ne se recoupent pas, mais qui sont qui se recoupent pas en réalité, si on examine vraiment la musique, mais qui sont parfois confondus dans le discours sur le jazz de l'époque. Et donc ces schèmes d'opposition, ce sont les suivants: européen-américain, noir-blanc, sauvage-civilisé, musique d'art et musique de divertissement, entertainment, comme disent les Américains. Et donc, à ces différents chaînes, on pourrait associer finalement masculin, féminin. Et donc, si vous examinez la musique, évidemment que ça ne fonctionne pas comme ça. Mais dans la manière de concevoir les choses, c'était des associations qui étaient souvent, des chaînes d'opposition qui étaient souvent associées, pris ensemble. L'un allait avec l'autre si vous examinez le discours sur le jazz de l'époque. Deuxième remarque que je voudrais faire, en tout cas qui m'a frappé au terme de cette étude, c'est le fait en fait que l'opposition masculin et féminin, elle est utilisée à différents niveaux en fait justement. Tantôt pour distinguer le jazz de la, civilisation européenne et civilisation américaine ou afro-américaine, tantôt pour distinguer le jazz de la musique classique européenne, ou tantôt pour distinguer deux types de jazz. Et donc ça montre bien que l'opposition masculin et féminin, elle ne correspond pas à des caractéristiques musicales évidemment que l'on pourrait qualifier d'essentiellement masculines ou d'essentiellement féminine, puisqu'on voit que ces mêmes caractéristiques, on peut les utiliser pour le jazz en général, et puis dans le jazz en général, on peut à nouveau redéployer le masculin et le féminin. Donc voilà, ce ne sont pas des caractéristiques fixes, forcément stables, qui valent de manière essentielle et de manière, on va dire, réaliste. On est bien dans le domaine de ce qu'on appelle la représentation des représentations. Et en fait, au contraire, en fait, le recours à l'opposition masculin-féminin pour les trois niveaux que j'ai distingués, elle relève plutôt d'une tendance que je qualifierais en fait d'anthropologique. Alors c'est un très grand mot, hein, bien sûr, mais pourquoi je dis ça? Parce que c'est une tendance qui est observable en fait à toutes les époques et partout dans le monde. Donc une tendance qui consiste à ramener des différences perçues entre n'importe quoi à n'importe quel niveau. Très souvent, on a tendance à les ramener à des différences entre genre, à des différences de genre entre masculin et féminin. Et peu importe la validité de ces distinctions. Autrement dit, le discours sur le jazz montre, en tout cas contribue à montrer, hein, parce que c'est, je suis pas du tout le premier à dire ça évidemment, que les oppositions genrées en fait structurent la manière de percevoir la musique, au moins dans les années 1920, celles qui m'ont intéressé aujourd'hui. Et dernière remarque, en fait, on pourra en fait se demander, en redoublant un peu la perspective, si ce rôle structurant des oppositions genrées n'est pas l'expression d'un point de vue genré, justement, sur le jazz, et d'un point de vue masculin, en l'occurrence. Parce que si vous regardez bien, tous les critiques que j'ai cités dans mon intervention, les critiques ou bien les musiciens, eh bien, ce sont des hommes qui produisent cette distinction genrée. Tant il est vrai que les femmes critiques de jazz, dans l'entre-deux-guerres, demeurent des exceptions. Alors, il y a évidemment des exceptions notables, comme Hélène Auclay, qui est critique à Chicago, ou Madeleine Gauthier, dont Pierre va parler tout à l'heure, hein, qui est une sorte de Clara Schumann, on va dire, de la critique de jazz. Bon, c'est des femmes qui jouissaient d'une grande autorité, mais qui étaient extrêmement quand même minoritaires dans les années 20. Donc la question, c'est de se dire, est-ce que ces oppositions genrées, pour terminer, elles ne sont pas le reflet ou la production d'un point de vue lui-même genré ?
Les femmes dans le jazz d'hier à aujourd'hui, état des lieux, perspectives de recherche. C'était une journée d'études proposée par le laboratoire ICD, Interaction culturelle et discursive de l'Université de Tours. Cette journée était organisée par Vincent Cotreau, département de musique et de musicologie, et modérée par Hélène Morel-Indard. Nous remercions Vincent Cotreau, Madame Pémira et l'ensemble des invités et nous ont permis de rediffuser les enregistrements de cette journée d'études réalisée par Jean Horry du service audiovisuel du département de musique et de musicologie.